13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et Dessus de table, vous le savez, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous, bon appétit si vous êtes à table et bon appétit si cette émission vous donne envie de manger, ce qui est aussi le principe, Manu.
Ben oui, nous, elle nous donne envie de manger en tous les cas. On a un peu faim à chaque fois qu'on sort du studio tous les samedis. Bonjour Philippe, comment ça va?
Écoutez, ça fait plaisir de vous voir, Manu.
Ben moi aussi. Ça fait bon. Une semaine.
Exactement.
Vous m'avez manqué.
Bon, je crois qu'on a fait suffisamment de civilité, là.
De salam alek.
Voilà, de salam alek. Bien, on n'a jamais autant parlé de cuisine tunisienne que cette année, Manu.
Oui, ouais. C'est vrai. C'est un peu l'année de la Tunisie, niveau gastronomique, mais pas que. C'est vrai que la cuisine méditerranéenne, dans son ensemble, est à la mode. Elle l'a toujours été un peu plus ou moins, mais c'est vrai qu'on mettait le focus un peu plus sur la Provence, plus sur l'Espagne, plus sur la Grèce, plus sur le Maghreb. Mais là, on est... je vais dire paname méditerranéenne en ce moment, c'est la mode. Et donc on va vous parler aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Méditerranée, c'est pas seulement 5-6 pays, c'est 24 pays riverains ou insulaires, avec des pays, des gastronomies dont on parle pas forcément, comme Malte, Chypre, la Croatie, c'est méditerranéen aussi, on ne le sait pas trop, enfin même si c'est sur la mer Adriatique, mais c'est considéré comme comme des pays riverains de la Méditerranée. Alors pour en parler aujourd'hui, ça tombe bien puisqu'il vient d'ouvrir un restaurant d'inspiration méditerranéenne, mais avec ses influences tunisiennes, c'est Youssef Ghasli. Bonjour Youssef.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Et bienvenue.
Alors, donc Youssef qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Dune, où je suis allé dîner il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'on est un peu transporté. Alors pas forcément, il y a des clins d'œil tunisiens dans la déco aussi.
Il y a des clins d'œil. Ouais.
Beaucoup, même dans la vaisselle. Mais c'est vrai que c'est un restaurant d'inspiration tunisienne. Auparavant, vous aviez ouvert Plume dans le 7e.
Exactement.
Où là, vous faisiez de la cuisine gastronomique, puisque bien que vous soyez né en Tunisie et que vous cuisiniez en France, vous avez travaillé avec des grands chefs français et vous faites toujours d'ailleurs chez Plume de la gastronomie française, rue Pierre Leroux, je crois.
Exactement.
Juste à côté du restaurant de Denis Imbrosi et
Poca. Juste à côté des Poca, on est voisins avec Denis. Oui.
Qu'on aura au téléphone tout à l'heure pour parler de son restaurant Malraux qui fait aussi de la cuisine méditerranéenne à Paris. Pourquoi? Parce que votre restaurant Plume, ça marche plutôt bien, toujours d'ailleurs.
Ça marche plutôt bien, oui. Mais après, j'ai toujours eu au fond de moi cette envie de proposer une table racinaire, on va dire.
Oui, l'appel des racines.
L'appel des racines, ouais. Racinaire et pas identitaire, c'est ce que je dis. Donc la Méditerranée, pour moi, ça me ressemble. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'avais envie de transmettre ce message global panaméditerranéen, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien aimé le terme, parce que finalement on se ressemble beaucoup en Méditerranée, qu'on parte du Liban jusqu'au Maroc ou bien de l'Italie jusqu'à la Tunisie. Du coup, il y a cet esprit qui est commun.
Oui, c'est l'esprit berbère.
Exactement, berbère, voilà. Où il y a eu tellement d'empires et d'échanges commerciaux à l'époque et tout, que tout se ressemble.
Oui, d'ailleurs, on a fait une émission récemment sur le couscous et beaucoup d'auditeurs étaient étonnés qu'on trouve du couscous en Sicile, mais il ne faut pas oublier que les Maures étaient un peu partout, fut un temps.
Alors, vous avez grandi en Tunisie, mais vous êtes arrivé à Paris, vous aviez quel âge?
20 ans.
Oui, donc vous avez fait plus que grandir en Tunisie.
Plus que grandir, oui.
Ouais, qu'est-ce qui a motivé de venir à Paris? C'était pour apprendre la cuisine dans une grande école de cuisine?
Exactement. Je suis venu en France pour l'Institut Paul Bocuse, pour apprendre la cuisine, et depuis, je suis resté.
Et vous n'aviez pas dans le projet de dire, je vais apprendre la cuisine en France, et puis je vais faire un projet en Tunisie?
À un moment donné, je suis rentré, même à un moment donné, j'ai passé 8 mois là-bas et finalement j'ai vu que j'avais pas envie, que j'avais plutôt envie de vivre en France parce que finalement je suis bien mieux ici.
Ouais, pour faire ce que vous aimiez.
Exactement.
Alors vous dites que votre démarche elle est racinaire, pas identitaire. À quel niveau vous placez la nuance?
La nuance, comme je vous avais expliqué la dernière fois quand vous étiez venu dîner, quand on vient d'une, j'ai pas envie qu'on se dise on va arriver, on va se sentir vraiment comme si on était en Tunisie. Je voulais pas faire trop de
genre, folklore,
trop d'engagement. Donc je voulais vraiment partager cet esprit commun de la Méditerranée, tout en laissant des petites nuances, comme vous avez dit.
Alors c'est vrai
finalement, ça relève peut-être de l'inconscient. Vous me dites que ça pense un peu du côté de la Tunisie, mais des fois c'est pas forcément voulu. Donc c'est
Vous voulez qu'on en parle?
C'est non, des accidents. Allongez-vous là, Youssef. On va en discuter. Alors, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je suis le premier à m'élever quand des restaurants chinois font des sushis, quand des restaurants thaïlandais font de la cuisine vietnamienne. Voilà, moi, j'aime bien effectivement qu'il y ait un sens et qu'il y ait un angle, comme on dit dans la presse, au niveau de la carte d'un restaurant. Mais quand c'est la cuisine méditerranéenne, c'est vrai que ça choque pas. Quand un restaurant fait des spécialités de tout le bassin méditerranéen, il y a un sens. Alors, est-ce que vous pensez que c'est justement le fait que certaines ethnies ont voyagé dans tout le bassin méditerranéen au cours de l'histoire, qui font qu'il y a quelque part un cousinage entre tous ces pays, qui fait que quelque part la cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine commune à tout le bassin?
Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. On a commencé par l'Empire romain au début, qui avait dominé tout le bassin. Après, il y a eu les Ottomans qui sont arrivés et qui ont un peu transmis tout ce savoir culinaire, j'aimerais dire, qui ont partagé tout ce savoir culinaire. Je pense à une pâtisserie, la baklava, on peut en trouver partout. On en trouve du Maroc jusqu'au Balkan, en passant par la Turquie, le Liban, l'Égypte.
Ouais. Les Carthaginois et les Maures aussi,
la Grèce.
Qui ont beaucoup voyagé.
Hein, on commence par l'Algérie, mais enfin bon, après... Ouais.
Et puis, comme vous parlez du couscous, le couscous aussi, c'est quelque chose qui a été un peu largement un peu transmise un peu dans plusieurs
pays. Par les berbères, oui, ça s'est propagé. D'ailleurs, moi, je donne toujours ça comme exemple parce qu'il est parlant, y compris au niveau étymologique. Hein. Mm. On a la pita qui naît en Égypte, qui va jusqu'en Turquie où elle s'appelle pita aussi. Mm. Et puis, ça arrive en Italie, la pita, ça devient pizza. Mm. Hein. On passe la frontière à Vintimille et ça devient la pizza saladière. Voilà, il y a un vrai cousinage. Et c'est vrai que c'est la cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine de voyage quelque part.
Exactement. De voyage, de partage et de cousinage et de...
Et de soleil.
Et de soleil, voilà.
Alors, dans votre restaurant Dune, vous proposez justement, vous sortez un peu de la sempiternelle trilogie entrée plat dessert et vous présentez votre carte avec une présentation différente. C'est la terre, la mer. Les pizzas.
Non, les pizzas. Voilà. On vous parlait des pizzas tout à l'heure et on s'est dit, en Italie, on a les pizzas. Au Levant, on a les pizzas et tout. Et on s'est dit, pourquoi ne pas croiser les deux et servir une pizza comme ça, cuite à la minute, plate et garnie à la minute. Et un petit croisement entre la pizza et la pita, et on appelait ça pizza avec un T du coup.
D'accord. Moitié pita, moitié pizza.
Hybride.
Très bien. Alors, dans votre restaurant, j'ai goûté un ovni culinaire, y compris au niveau de l'ustensile. C'est un agneau confit dans une gargoulette. Alors, c'est quoi une gargoulette?
Une gargoulette, c'est une amphore. Et en fait, peut-être que ça peut paraître ovni ici, mais c'est pas forcément ovni ailleurs. Du coup, ce qu'on fait, c'est de l'agneau qui est braisé. À la base, c'est une spécialité berbère qui est surtout faite dans le désert, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou certainement en Algérie aussi. C'est des amphores qui sont garnies avec la viande d'agneau qui est marinée dans des épices et qui sont cuites à la braise mais enfouies sous le sable. Donc on a essayé de reproduire ça ici, bien sûr. C'était compliqué de creuser un trou au milieu du resto pour pour les cuire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on se sert de cet amphore comme ustensile de présentation. Du coup, c'est de l'agneau qui est un peu comme un agneau de 7 heures qui est braisé toute la nuit à basse température avec des légumes et finalement on le sert à table dans cette jarre, dans cet amphore et avec une petite louche, et il suffit de se servir soi-même comme à la maison.
Bon, alors c'est vrai que c'est un plat que j'ai eu l'occasion. Vous avez failli goûter, Philippe, puisque je vous avais invité, mais vous avez préféré pantoufler à la maison, comme souvent. Et donc.
Parce qu'on m'a pas dit qu'il y avait de l'agneau à la gargoulette.
Ah, bah oui, vous seriez venu ici.
Manu, si vous commencez à me dire, il y a de l'agneau à la gargoulette, je viens en courant.
Et c'est vrai que c'est cuit dans cette amphore en terre. Il y a un petit couvercle. Vous pouvez aller sur mon Instagram, d'ailleurs, mariani.manuel, si vous voulez voir ce que ça donne en image. Ah non, c'est le poulpe que j'ai mis.
Je crois que vous avez mis les deux.
Ah, j'ai mis les deux. Ah ben voilà, quand on aime, on ne compte pas. Mmh. Et donc effectivement, cet agneau, il est confit. Alors, avec des petites pommes de terre grenaille, donc ça, c'est la fusion un peu de votre expérience
des deux rives.
En cuisine française, c'est ça, l'entre-deux rives. Et c'est vrai que c'est confit. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de cuisson à basse température? Parce que c'est vrai qu'à la fin, c'est à la fin,
on le réchauffe, mais sinon, ça cuit 7 heures à 80 degrés.
Alors, donc dans votre autre restaurant, Plume, qui est un restaurant gastronomique, ça vous arrive de faire des clins d'œil à la Tunisie ?
Ça arrive aussi de temps en temps, oui. Ça arrive puisque finalement, la cuisine, c'est de l'amour, la cuisine, c'est de l'instinct. Du coup, même si j'ai appris un peu...
Enfin, c'est de l'instinct, c'est chez vous que c'est de l'instinct.
Oui.
On ne va pas chez Bocuse pour apprendre l'instinct.
On ne va pas chez Bocuse pour apprendre l'instinct, mais on va chez Bocuse pour apprendre à manier l'instinct. Donc il y a une petite nuance.
Non, mais vous êtes un cuisinier d'instinct.
Je suis un cuisinier d'instinct, oui.
Ouais. Et vous vous revendiquez comme ça, donc c'est...
Complètement,
voilà. Ouais. Voilà, donc, mais c'est plus facile quand on a les bases.
C'est plus facile quand on a les bases, quand on a les techniques, et c'est pour ça que finalement ce qu'on apprend à l'école aussi, c'est les bases, les techniques. Après, ces bases et techniques-là, on va apprendre à les forger pendant notre carrière.
Ouais.
Hormis la cuisine tunisienne, quelles sont vos cuisines préférées dans le bassin méditerranéen?
Moi, je pourrais manger italien matin, midi et soir jusqu'à la fin.
C'est vrai, alors, mais quoi dans la cuisine? Parce que c'est vrai que, d'après les gens, la cuisine italienne... Alors c'est vrai que c'est... D'ailleurs, j'ai dit sauf la cuisine tunisienne. Enfin, faut pas oublier que les Tunisiens, c'est les premiers mangeurs... Les premiers consommateurs... Non, premier maintenant. Oui, oui. Premier consommateur de pâtes au monde. Ouais. Devant l'Italie, justement, ce qui est étonnant. Mmh. Et alors, qu'est-ce que vous préférez dans la cuisine italienne? Parce que les gens pensent aux pizzas et aux pâtes, mais c'est tellement... large la cuisine italienne, il y a beaucoup d'autres choses, il y a des terroirs.
Mais ce que j'aime beaucoup dans la cuisine italienne, finalement, c'est pas un terme péjoratif que je vais dire, mais c'est sa simplicité. Parce que on est sur le produit, on va à l'essentiel, on n'essaie pas de trop transformer le produit. C'est une cuisine qui a du goût, de la saveur et tout, donc.
Alors, puisqu'on parle de cuisine italienne, ça tombe bien. On parlait de votre restaurant Plume, qui est voisin du restaurant Epica de Denis Imbrosi. Et bah, Denis, il est au téléphone avec nous.
Qui est épique, vous pouvez le dire, Manu. Épique. Donc, vous pouvez y épique. Aller.
Salam alaikum, Denis.
Ciao, ragazzi, buongiorno. Comment va? Tutto bene?
Comment ça va?
Très, très bien. Merci beaucoup. Désolé de ne pas être là avec vous, mais... Avec vous, avec les pensées, avec le téléphone. Ouais.
Non, mais c'est de toute façon, on a ton voisin hein, qui nous représente, Youssef Gasly du restaurant Plume, qui est sur le plateau.
Salut Youssef.
Salut Denis.
Comment tu vas?
Bien et toi?
Très bien, merci.
Bon, alors Denis, bon, la cuisine italienne, évidemment, ça fait partie de la cuisine méditerranéenne, mais tu as aussi un restaurant qui s'appelle Malraux hein, dans le troisième, qui est un restaurant. D'inspiration méditerranéenne. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis nous dire comment ça t'est venu, cette idée d'ouvrir un restaurant méditerranéen?
Bien sûr, avec grand plaisir. Mais il faut dire que l'Italie, c'est quand même l'essence de la Méditerranée. Hein. Donc, je suis calabrais, j'ai des origines siciliennes. On est vraiment au centre de cette mer qui est magnifique. Et depuis toujours, j'adore les recettes de la Méditerranée. Et l'Epoca, c'était un des premiers avec lesquels j'ai pu exprimer un peu cette tendance aussi méditerranéenne avec les affiches chauffées à la juive. Il faut savoir que l'affiche chauffée à la juive, c'est une recette typiquement romaine des mamans juives.
Oui, c'est le ghetto juif de Rome, ça date du 14e siècle, hein, les carciofi alla giudia.
Carciofi alla giudia, exactement.
Ah,
et c'est devenu même les symboles et aussi les logos du restaurant Epoca. Et d'accord. Puis, je me suis dit, pourquoi ça a été qu'il y a au plat italien? Pourquoi vous n'avez pas franchi aussi les autres mers et aussi l'esprit? Et c'est pour ça que Malraux a vu le jour en 2018. Et c'est un restaurant qui rassemble un peu toutes les recettes de la Méditerranée et même parfois fusionnées. Je peux te faire des exemples. Voilà, on peut faire de la chachouka, du pan zatar, de l'hummus, mais aussi des pâtes à l'evongo, les harissa, jusqu'à, par exemple, arriver au dessert comme... un panna cotta, la fleur d'oranger et pistache. Et il faut savoir que même au Liban, on fait des panna cotta et aussi dans d'autres pays d'Orient.
D'accord. Alors, Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu disais que tu avais des origines siciliennes. En Sicile, on fait du couscous aussi. Le couscous au rouget.
Le couscous au poisson, tout à fait.
Ouais.
Tout à
alors,
fait,
quel est le secret du couscous au rouget? Parce que moi, je l'ai effectivement goûté en Sicile et à Paris dans un restaurant sicilien. C'est un bouillon, on dirait presque une bisque, hein, le bouillon. Hein. C'est vraiment.
Une bisque, on utilise aussi du safran parce qu'on est producteur de safran en Sicile également. Et il faut savoir que les mamans, ils nous ont toujours appris de s'ajouter un ingrédient secret à la recette qui est les soupçons d'amour.
D'accord. Alors, je précise qu'en Sicile, hein, il y a eu jusqu'à en début de cette semaine, il y avait le championnat, le couscous fest, hein, le championnat du monde de couscous. La France était représentée par le chef Massy, hein, qu'on avait reçu en plateau ici. Malheureusement, hein, il était dans le dernier carré, mais c'est l'Italien qui a gagné cette année. Il était en finale contre le chef palestinien et donc, voilà. Cette année, c'est l'Italie. C'est un chef, même, je crois, sicilien d'ailleurs. Donc, Cocorico, je sais pas si on dit Cocorico en Italie. Alors, quelles sont, j'ai même question que pour Youssef tout à l'heure, quelles sont tes cuisines, alors hormis la cuisine italienne évidemment, quelles sont tes cuisines préférées toi dans le bassin méditerranéen et pourquoi?
Mais j'adore la cuisine espagnole, bien évidemment, j'adore la paella, c'est un pays où j'y vais souvent au moins une fois par an, et après évidemment j'adore la cuisine française de la Côte d'Azur. Il faut savoir que je travaillais pour Alain Ducasse pendant longtemps et quand on était au Louis XV à Monaco, on avait une cuisine française de la Méditerranée avec des produits effectivement qui venaient d'Italie et aussi de la Côte d'Azur. Donc j'adore cette cuisine un peu fraîche, légère, colorée, des saisons avec beaucoup de légumes, avec beaucoup de verdures, beaucoup de poissons. Donc c'est ce qui me touche le plus. Après, effectivement, ma femme elle est fan aussi des cuisines japonaises et asiatiques. Donc on s'épanche aussi un peu
là. On embrasse Sylvia au passage.
Ben, exactement. La femme de ma vie. Et voilà, donc forcément, on a tendance à s'approcher un peu des cuisines que l'on aime.
D'accord, alors tu disais que tu avais travaillé avec Alain Ducasse. Il a publié une recette d'artichaut à la juive il y a quelque temps. Est-ce que c'est toi qui l'as contaminé au passage?
Ben oui, avec les chefs Alain Ducasse, on a eu la chance de pouvoir faire plusieurs livres. On a sorti un troisième livre de cuisine qui s'appelle Une table au soleil chez Édition Ducasse Web et Diabook. Et donc, effectivement, on a eu beaucoup d'échanges avec papa Alain Ducasse et sur les recettes aussi. Contamine un peu la France, l'Italie et la Méditerranée.
Denis, je me permets de te couper parce qu'on doit lancer la pub. On peut te reprendre juste après la pub ou t'es pressé?
Avec grand plaisir.
Allez, à tout de suite. Suite.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Voilà, et Dessus de table s'intéresse à la cuisine méditerranéenne aujourd'hui, Manu.
Absolument, on parle de la cuisine du bassin méditerranéen, hein. C'est 24 pays en tout, hein. Donc c'est pas limité à la Grèce, à l'Italie, au Maghreb et à la Provence, hein. Il y a vraiment beaucoup d'autres pays, il y a tous les pays du Levant aussi, hein, qui sont sur le bassin méditerranéen, la Libye, l'Égypte, etc. Donc c'est une cuisine très variée, mais Youssef, est-ce que il n'y a pas un ADN commun dans toute cette cuisine?
Comme on disait tout à l'heure, oui, il y a un ADN commun. Du coup, c'est la simplicité du produit. C'est l'huile d'olive. On n'a toujours pas parlé d'huile d'olive. Il y a beaucoup d'agrumes aussi. Il y a tous ces légumes gorgés de soleil.
Les épices aussi qui
ont été importées au fil des années et tout. Donc oui.
Alors vous parlez de fruits et légumes. Quelle est votre saison préférée, vous, en termes d'offres de fruits et de légumes?
Bah, je pense que chaque saison un peu à sa place. Après, mes légumes préférés, je peux les dire. On parlait d'artichaut tout à l'heure avec Denis. Moi, par exemple, mon légume préféré, c'est l'artichaut. Après, quand il y a, au printemps, il y a les petits pois qui arrivent aussi. J'adore les petits pois. Les tomates, bien sûr. Moi, en tant que Tunisien, en Tunisie, on peut pas. Il n'y a pas un plat où il n'y a pas de tomates, je crois. Après,
oui, ça, c'est
presque,
vrai. Oui.
Presque pas. Peut-être pas, mais presque pas.
Et d'œuf. La
tomate et l'œuf.
C'est le binôme gagnant. Il y a le tiercé gagnant. C'est
le poivron, tomate, la tomate.
Harissa aussi.
Harissa, oui. Voilà,
tomate, harissa.
Moi, je suis Nabeléen en plus. Donc, Nabeul, c'est la ville de l'harissa. Donc, c'est.
D'ailleurs, vous faites une harissa maison chez Dune qui est absolument exceptionnelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'étais là. Moi, je me faisais des tartines de pain avec votre
harissa. Ah oui, moi, c'est ce que je prends en petit déj et tout, dans le café et tout, ça passe pas mal.
Ah, mais alors, quel est le secret d'une bonne harissa? On ne va pas vous demander de dévoiler le secret de votre recette, mais quels sont les... Après, si on veut faire une harissa maison...
Il y a deux harissa différentes, en fait. Après, c'est bien sûr qu'il y a la sélection du terroir. On fait du bon qu'avec du bon. Là. Le poivron aussi, il faut bien savoir sélectionner le poivron. Il y a deux harissa différentes. Du coup, l'harissa qui est faite avec des poivrons qui ont été séchés préalablement et une harissa qui est faite avec des poivrons frais. Du coup, l'harissa qui est faite avec des poivrons séchés, on va surtout l'utiliser pour cuisiner, pour des plats de mijotage. Et l'harissa qui est faite avec des poivrons frais qui sont cuits à la vapeur, puis mixés avec des épices de l'ail. Surtout, il y a du carvi, c'est ce genre d'épices qu'on met
dedans. Alors, donc du poivron, parce que c'est vrai que souvent, quand on regarde dans des livres ou sur Internet des recettes d'harissa, très souvent, on ne trouve pas de poivron. Mais
c'est du piment, et voilà, c'est le chemlier.
C'est ce qu'on appelle des piments doux, c'est un mélange de piment fort et piment doux.
C'est ça, ça dépend de la puissance du poivron, en fait. Après, c'est la manière dont le poivron va être irrigué en eau qui va un peu donner la puissance du poivron à la fin.
Est-ce qu'on peut dire que la harissa est à la cuisine tunisienne, le condiment, que la moutarde était la cuisine française?
Un peu plus même, je pense.
Un peu plus. Oui, c'est vrai qu'on ne met pas de la moutarde partout dans la cuisine française.
Denis Ambrosi, vous avez une recette de harissa, vous? Est-ce qu'il est là, Denis?
Ah, Denis, oui, non, et c'est ça, il est
en... On fait les linguines, les vongoles, les harissa, et je utilise aussi la harissa, par exemple, sur les pizzas.
Ah, oui.
La diavola avec la harissa, qui est extraordinaire.
Ouais, la diavola, donc c'est avec de la saucisse piquante, et toi, tu rajoutes de la harissa en plus, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais, alors,
après, il ne faut pas oublier aussi, on parle d'harissa et tout ça, mais moi j'adore la poutargue aussi, c'est un ingrédient
qu'on trouve
beaucoup dans la Méditerranée. Les attards aussi, en fait, chaque région de la Méditerranée a son type des attards, qui le fait avec du thym séché, qui ajoute du sésame, qui ajoute d'autres herbes séchées à l'intérieur. Donc, et bien évidemment, comme disait Youssef tout à l'heure, l'huile d'olive, on l'a présent, je pense, partout.
Oui, alors d'ailleurs, il y a un plat, je suis en train d'essayer de rechercher le nom, hein, vous allez peut-être m'aider, Youssef, mais il y a un plat avec... alors attendez, j'essaye de... Dites-nous, avec de la poutargue. Le lablébi à la poutargue.
Le lablébi.
Alors, qu'est-ce que le lablébi?
Le lablébi, il faut remettre un peu le produit dans son contexte. On va dire que c'est une soupe de pois chiches avec du pain rassis, à la base. Donc on met pas de poutargue dedans, c'est moi qui ai un peu pris
ce parti pris
de mettre de la poutargue dedans. C'est un peu un plat de la street food en Tunisie.
Oui. Vraiment pas cher pour le
coup. Pas cher du tout, vraiment un plat très 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 populaire et c'est vraiment du recyclage de pain in fine ce plat-là. On peut le manger très tôt le matin ou très tard la nuit. Genre. Donc c'est une soupe de pois chiches qu'on verse sur du pain rassis et on met beaucoup d'harissa dedans, beaucoup de cumin. Un œuf, on mélange. En Tunisie, il y a deux, trois versions, on va dire. Il y a une version qui est faite avec des pieds de veau, une version qui est faite sans rien du tout, du coup vegan, on va dire. Et on peut rajouter aussi du thon à l'huile d'olive par-dessus.
Denis, en Italie, quel type d'utilisation on fait de la poutargue? On en met dans les pâtes, mais est-ce qu'il y a d'autres? Ça, moi, j'adore les pâtes avec une râpée de poutargue dessus, c'est délicieux. Ah ben, mais est-ce qu'on en fait d'autres utilisations?
Les pâtes au citron et poutargue, je pense que c'est les best-sellers que tout le monde aime et tout le monde connaît. Mais effectivement nous, la poutargue, on appelle ça les parmesans de la mer. Il faut savoir que dans les pâtes, on ne met pas des parmesans quand c'est des pâtes aux fruits de mer ou aux pâtes aux poissons. Mais notre parmesan qu'on va ajouter, c'est vraiment la poutargue. Donc n'importe quelle pâte qu'on va réaliser, ou même un risotto par exemple, qu'il soit à base des fruits de mer ou poissons, pour le lier, pour que ce soit crémeux, on n'ajoute pas du parmesan râpé ou du grana-padano râpé, mais on ajoute de la poutargue râpée.
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve dans tout le bassin méditerranéen, la poutargue. Il y en a en Grèce, il y en a en Tunisie d'ailleurs. La Tunisie est un gros producteur de poutargue.
J'appelle ça le saucisson tunisien.
Le saucisson tunisien.
On le découpe à l'apéro.
On a le parmesan tunisien, le saucisson tunisien.
On le découpe à l'apéro, on met un filet d'huile d'olive, un trait de jus de citron et basta.
Et c'est parti.
Voilà, alors la poutargue, ce sont des œufs de poisson qui sont séchés et salés, c'est ça?
De mulet, oui.
Mulet,
pardon.
Oui.
Oui, j'ai dit de poisson.
On en fait en Sardaigne et en Calabre et en Sicile. On est aussi très grand producteur avec la Tunisie. Je pense qu'on a le monopole de la poutargue dans le monde, quoi.
Ouais. Alors justement, juste avant la pause, on parlait de ce fameux couscous sicilien avec le rouget et ce bouillon qui est presque une bisque, hein, parce qu'on y fait, c'est une réduction avec les têtes, les arêtes du rouget, etc. Quel est le secret de ce couscous et je l'ai goûté aussi une fois au poulpe. Est-ce que c'était une invention, une modernité, ou est-ce que c'est classique aussi?
Non, c'est classique aussi, hein. Ça existe vraiment et on ajoute beaucoup de safran, surtout quand on le fait à base de rouget et poisson des roches. Et non, mais aussi les gamberoni, les têtes de gamberoni. Surtout en Sicile, on a une gamberoni qui est toute petite et qu'on peut manger complètement entière comme ça. Avec laquelle aussi on fait les bouillons, on fait les soupes, et avec lesquelles on cuit aussi la semoule. Et en fait, nous, on cuit la semoule au bouillon des crustacés.
C'est ça, oui, c'est un bouillon humide.
Ouais. Ouais, exactement.
En tous les cas, c'est délicieux. Où est-ce qu'on peut manger ça à Paris? Parce que il y en avait un rue du Verbois où on trouvait ça, mais c'est fini maintenant.
Alors, il y a un restaurant ici, les Moulineaux, qui s'appelle Larissa.
Ah bah.
C'est Monsieur Méziane qui appartient et ils font aussi le couscous au poisson.
D'accord, et ça c'est une bonne adresse. Alors.
Là, ouais, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Là.
Oui, oui, je crois que Youssef va y aller aussi apparemment.
Après, oui. Alors, si vous allez, allez-y avant la fin de l'année, parce que Monsieur Méziane, il a 72 ans et il part à la retraite, il ferme la boutique et il part en vacances après.
Ah bah c'est le moment.
Il reste quelques mois à venir, c'est ça. Moi, c'est le couscous du dimanche où on y va avec Sylvia aussi. Et qu'on adore en famille, tu vois, partager. Et vraiment, n'hésitez pas à y aller parce que c'est extraordinaire.
Bon, eh ben super. Merci pour l'adresse, Denis. Bon, je sais que tu es très occupé aujourd'hui. C'est pour ça que tu ne pouvais pas être avec nous en plateau. Donc, on va te libérer. Plaisir. Merci d'être resté avec nous aussi longtemps.
Je voulais te dire, Manu, si tu veux faire gagner un de mes livres, une table au soleil, en plus, c'est les livres de la Méditerranée. Donc, moi, si tu me donnes l'adresse à qui l'envoyer, quelqu'un qui peut-être va t'appeler pour une question que tu vas poser tout à l'heure. Je l'envoie avec grand plaisir, dédicacé et tout. Donc, tu me tiens au courant. Si tu veux faire gagner un livre, c'est avec grand plaisir.
Alors, avec grand plaisir. On n'aura peut-être pas le temps de faire le concours par téléphone, mais sinon, on le fera sur Instagram.
C'est
et
parfait.
On avait déjà fait, d'ailleurs, gagner une fois ton livre quand tu
c'est
étais
la base
venu.
Pour ceux qui aiment cuisiner.
Et il y avait eu beaucoup de participants.
La cuisine italienne, c'est la base.
Voilà.
Merci,
salut,
Denis.
Avec plaisir. Bonne
je t'embrasse
journée,
ciao, et embrasse Sylvia.
Ciao.
Ciao.
Tiens, on parle de littérature, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties de livres de cuisine, hein, Manu, c'est un genre qui se porte bien, et le livre de Mireille Sanchez qui a retenu votre attention.
Absolument, alors Mireille Sanchez qui est une...
Alors, Shkoun.
Mireille Sanchez, ouais. c'est une auteure, donc journaliste culinaire aussi et auteure, qui a beaucoup parcouru le monde, notamment la Méditerranée. Elle s'est illustrée avec un livre qui avait très bien marché, qui s'appelait La route du poulet, le poulet voyageur, 1000 recettes et autres histoires de poulet, qui a même été traduit en anglais et qui a été un best-seller aux États-Unis.
The Chicken Road.
Oui, The Chicken Road, ouais. Gros best-seller. Merci, Philippe. Elle a donc beaucoup voyagé dans tout le bassin méditerranéen et elle a écrit plusieurs livres autour de la Méditerranée. Mais là, on est vraiment dans un livre qui traite de tous les pays, les 24 pays du bassin méditerranéen sont listés dans ce livre. Donc, on va avoir des recettes maltaises, croates, des recettes chypriotes. Enfin voilà, vraiment tout 100% du bassin méditerranéen. C'est 1300 recettes. Hein. C'est quand même un beau livre. 1300 recettes et on remonte sur l'histoire de ces recettes jusqu'à 5000 ans. Donc, c'est vraiment un gros travail. Documentaire et presque encyclopédique de Mireille Sanchez qui est aux éditions La Martinière et que je vous recommande vraiment d'acheter. Ça peut faire un très beau cadeau d'ailleurs pour Noël.
Et d'ailleurs Mireille est là pour en parler avec nous.
Mais non. Non, Mireille est au courant qu'on devait l'avoir au téléphone.
Mireille est au courant. Mireille, si vous nous écoutez, puisqu'on l'a tué.
Mais on ne nous a pas transmis son numéro de téléphone.
Non, mais c'est ça la magie de la radio, Manu.
Mais voilà, c'est magnifique.
Et heureusement, moi, je trouve que vous êtes tout à fait le bon messager pour parler.
J'ai bien fait, Mireille.
Ah oui, vous êtes très
bon,
bien,
ça va. Bien. Oui, on me le dit souvent. Et puis, on en profite effectivement pour parler du livre de Denis Imbrosi, alors que vous pourrez gagner. Hein, ça, c'est Denis qui nous l'a proposé tout à l'heure au téléphone. Une table au soleil. Donc ça, c'est un livre qui est sorti en septembre 2021, mais qui se vend toujours très bien et que vous pouvez toujours trouver. Hein, donc si vous avez envie de vous évader et de troquer la grisaille du quotidien contre la chaleur du bassin méditerranéen.
C'est beau.
Eh oui, vous pouvez aller donc chez Dune, le restaurant de Youssef Ghasly, ou bien chez Malraux, le restaurant de Nîmes Brosy, ou bien vous procurez ce livre, Une table au soleil, ou bien essayez de le gagner. Tout à l'heure, on vous expliquera en dernière partie d'émission.
Et on continue à évoquer cette cuisine méditerranéenne dans Dessus de table jusqu'à 13h.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, nous parlons de la cuisine méditerranéenne aujourd'hui, Manu.
Ah oui, Philippe, avec notre invité du jour, Youssef Ghasly, du restaurant Plume, et qui vient d'ouvrir le restaurant Dune. Vous aimez bien les U dans les, les noms de restaurants.
Il y a une petite histoire derrière tout ça.
Ouais. Ah, laquelle ?
La petite histoire. Il y a eu le premier resto, donc Plume. Pourquoi j'ai appelé Plume ? Parce qu'au début, je galérais, je cherchais un nom, je ne trouvais pas trop. J'ai tapé historique rue Pierre Leroux et j'ai remarqué que c'était le tout premier nom de la rue. Donc en 1672, la rue s'appelait rue de la Plume. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Plume.
Alors en parlant de la Plume, il y a un restaurant, c'est pas votre copain, c'est un restaurant qui est dans un hôtel et qui s'appelle La Plume.
Je pense
vous avez des soucis avec eux.
On va éviter d'en parler, je pense.
Non mais juste,
ça va me fâcher.
Si vous voyez des avis négatifs sur le restaurant de Youssef Ghasly, c'est pas destiné à son restaurant.
Ça ne me concerne pas.
Ouais. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est bien de le dire. C'est vrai qu'il y a le restaurant qui est à l'intérieur de la Poste du Louvre, un tout nouveau restaurant qui s'appelle La Plume, où les gens sont pas forcément très bien accueillis, la cuisine n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'ils ont annoncé, puisqu'ils ont fait beaucoup de com. Et il y a des gens donc sur Internet, hein, TripAdvisor ou Google, qui viennent en disant on a été mal reçus.
C'est ça. Le videur ne m'a pas laissé rentrer.
Le videur
rentrer
à l'entrée, mais chez vous il y a pas de videur. Donc si vous voulez vous amuser, vous allez regarder les réponses de Youssef aux avis mécontents, ça ne le concerne pas, on vous le dit.
La vérité c'est que Manuel Mariani est un professionnel des commentaires TripAdvisor. Il peut savoir si ça émane d'un vrai client ou si ça n'émane pas d'un client, mais vous expliquera comment.
C'est vrai, absolument.
Alors vous n'êtes pas un enfant de la balle, vos parents n'étaient pas du tout dans la partie, comme on dit. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents ?
Mes deux parents sont médecins.
Ouais.
Du coup, même on vient essentiellement d'une famille tous de médecins. Et moi, j'ai toujours voulu faire de la cuisine.
Il y a beaucoup de grands médecins et grands chirurgiens en Tunisie, qui travaillent d'ailleurs soit en France, soit en Tunisie.
Oui, il y a beaucoup de médecins tunisiens qui exercent ici en France, effectivement.
Mais vous vient d'où, finalement ?
Alors là, je ne sais pas. Mais depuis que je suis haut comme trois pommes, j'avais envie d'avoir un resto.
Vous aviez une grand-mère, peut-être ?
Une grand-mère, une mère qui cuisine beaucoup aussi. Deux grand-mères et une mère qui cuisine beaucoup.
Alors vous montiez sur le tabouret pour être à la hauteur de la marmite, non ? Pour touiller
Je pense, oui. J'ai pas trop de souvenirs comme ça, mais très tôt, j'ai commencé à faire à manger. Alors le premier truc que j'ai appris à faire, ça a été le steak au poivre. Et je faisais mes steaks au poivre, mes filets au poivre, à la maison. Et je régalais. J'espère que je régalais tout le monde à l'époque, parce que tout le monde me disait que c'était bon, mais
ça veut dire que vous êtes passionné au départ pour la cuisine française et pas pour la cuisine tunisienne, du coup.
Je pense qu'il y a de ça. Et après, voilà, très souvent, finalement, la cuisine française, surtout il y a quelques années, ça a toujours été un peu la référence. On allait au resto. Donc, même quand j'allais au resto, finalement, en Tunisie, on allait dans des restos qui faisaient de la cuisine française, du coup.
Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas du tout le parcours classique d'un chef qui se monte. Vous allez chez Bocuse.
Exactement.
C'est chez Bocuse que vous avez appris à ne pas éplucher les légumes ?
Exactement. Voilà, je laissais les autres éplucher à ma place. Non, mais...
Pourtant, il a la réputation de bien les éplucher, bien détailler.
Exactement.
Vous êtes le roi de la non-épluchure de légumes. Pourquoi ?
Parce qu'il y a certains légumes qu'on n'a pas besoin d'éplucher, on va dire.
Mais les patates, il faut les éplucher.
Pas forcément. Si elles sont bien lavées. Une courge, on va être bon, même une courge, on peut la cuire entière avec la peau et récupérer la chair à la fin. Du coup, il y a les carottes aussi. On n'est pas obligé de les éplucher. Donc
non, mais voilà. Mais si les légumes sont bio, il suffit de les rincer,
de bien les laver.
Mais il y a un truc, moi que je fais, qui marche super bien, c'est les gants de toilette. Vous savez, pour faire les petits gommages de la peau.
Ah oui.
Franchement.
Au hammam.
Non, mais c'est ça, exactement. Les gants qu'on trouve au hammam, hein, c'est comme les gants MAPA, mais c'est en espèce de maille. Vous prenez des légumes bio si possible, hein, vous les frottez sous l'eau avec ça, et je peux te dire que les pesticides, les choses comme ça, alors on n'enlève pas forcément tout, parce que, mais en tous les cas, on les nettoie bien comme ça, et on peut laisser la peau, parce que c'est dans la peau qu'il y a les vitamines et le goût, principalement.
Très bonne idée, je vais essayer, en tout cas, l'histoire des gants.
Oui, non, mais ça marche super bien, Youssef.
Copyright, Manuel Mariani.
Eh oui.
Mais vous êtes devenu ce qu'on appelle un chef anti-gaspi avant que ça devienne la mode. Hein. Finalement, rien ne se perd, tout se cuisine.
Je pense pas que je sois le premier à être devenu un chef anti-gaspi, mais je pense qu'il faut un peu réfléchir là-dessus et avoir un peu cette idée-là en se disant, déjà on gagne de l'argent, primo, on gagne du temps, et puis on participe à notre petite échelle, à ne pas trop gaspiller.
Ouais, et puis on fait des bonnes choses qu'on peut avoir tout le temps à disposition. Moi, ce que je le répète assez souvent dans les émissions, Philippe, vous le savez, mais si on veut à tout prix éplucher les légumes, les carottes, les courgettes, enfin qu'importe, vous gardez vos épluchures et avec ça, vous faites des bouillons. Vous faites des bouillons et les bouillons, vous mettez ça dans des bacs à glaçons et vous mettez ça au congélateur. Quand vous avez besoin de faire une petite sauce ou autre, vous enlevez un cube de bouillon, ça se remet à température très vite. Vous mettez ça dans une casserole, ça permet d'avoir tout le temps des petits bouillons. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à acheter le livre « Bouillon » de William Ledeuil, qui est le meilleur livre, franchement, pour tout ce qui est bouillon et autres. Et franchement, d'ailleurs, le bouillon revient à la mode, pas seulement de type de restaurant, hein, comme les bouillons Chartier ou autres, mais également le bouillon. Hein, c'est vrai qu'on n'est plus dans la cuisine aujourd'hui à la crème avec des sauces lourdes, on est plus dans les jus réduits, dans les bouillons, et c'est tant mieux parce que c'est très bon et puis c'est meilleur pour la santé.
Exactement, concentration de saveur. C'est toujours mieux que les petits bouillons Knorr industriels.
Ah, bah évidemment, puis c'est tellement facile à faire un bouillon.
Ouais. Alors Youssef, vous vouliez être cuisinier, mais c'était aussi important pour vous d'être chez vous, dans votre établissement.
Exactement.
Vous auriez pu être cuisinier chez quelqu'un sans être un entrepreneur.
Moi j'ai toujours eu, j'ai pas eu ce parcours un peu classique du cuisinier qui va passer des années dans de belles maisons, être auprès d'un mentor, d'un chef qui pendant quelques années s'inspirait de cette personne. J'ai pas eu ce caractère-là où j'ai toujours eu du mal un peu à supporter les ordres, on va dire. Du coup, j'avais tout de suite très envie d'être chez moi, du coup. J'ai un peu grillé les étapes et j'ai eu la chance, du coup, d'être soutenu dans cette démarche-là et d'avoir réussi à être chez moi assez rapidement.
Parce que vous avez eu un parcours assez rapide, finalement. Hein. C'est-à-dire, vous êtes arrivé en France très vite, l'Institut Paul Bocuse, l'apprentissage, entre guillemets, chez quelques grands chefs, et puis très vite, vous mettez à votre compte.
Travailler un peu, le temps de se faire une expérience quand même, de ramasser un peu d'argent pour pouvoir se lancer. Et après, voilà, j'ai eu la chance, du coup, de lancer Plume entre 2015, fin 2015, début 2016.
D'accord. Alors, vous retournez souvent en Tunisie,
oui,
Youssef?
Oui, assez souvent. 3-4 fois par an.
3-4 fois par an. Et alors, vous ramenez de temps en temps des nouvelles idées de recettes?
Des épices, de l'harissa, beaucoup de fleurs d'oranger aussi. J'aime bien ce produit. Voilà.
Bon, alors, puisque on parle de Youssef Ghasly et de la Tunisie, et même de la cuisine méditerranéenne en général, on a un autre grand nom de la Tunisie au téléphone, c'est Yoni Saada. Bonjour Yoni.
Bonjour à tous. Désolé, hein, s'il y a un petit peu de bruit, on est au restaurant, c'est pour ça, donc c'est vivant quoi.
Oui, alors je précise, parce que c'est une actu justement, tu es au Galerie Lafayette, puisque tu as ouvert un bagnard au Galerie Lafayette.
Ouais, exactement. On a ouvert au premier étage du Lafayette Gourmet un bagnard, un restaurant, et donc j'y suis sur place, donc s'il y a un petit peu de bruit, c'est pour ça, mais en tout cas...
Non, mais on t'entend très bien.
Ah bon, bah c'est super. Tout le monde va bien?
Impeccable, Yoni, impeccable. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, Yoni Saada, alors moi qui suis natif du Marais, hein, évidemment, je connais très bien la famille Saada, puisque tu es le fils et le petit-fils de la boucherie Saada rue des Rosiers, qui est quand même une institution dans le quartier. Le roi de la merguez aussi. Hein.
C'est ça.
D'ailleurs, tu t'embêtes pas à faire les merguez chez Bagnard, tu les prends dans la boucherie de la famille. Hein.
Ah bah ouais, évidemment, évidemment.
Alors,
évidemment, ouais, plus vieille boucherie du Marais, donc fils et petit-fils de boucher.
Ok. Alors, donc, tu... Bah, d'ailleurs, on parlait juste avant du livre de William de Le Deuil sur les bouillons. C'est un des restaurants où tu es passé, mais aussi chez Yannick Aleno, Frédéric Anton. Donc, t'as bossé beaucoup chez les étoilés. Mais toi aussi, comme Youssef Ghasly, notre invité, tu es revenu un peu aux sources. Alors, tu as ouvert Bagnard, donc d'abord rue de Saint-Onge, mais je crois qu'il est fermé aujourd'hui.
Non, le premier, il était rue Saint-Augustin, il est toujours là-bas.
Pardon. Donc toujours rue Saint-Augustin.
Voilà, rue Saint-Onge, ça a fermé parce que ça va être ma table de chef où je vais m'élargir, je vais un peu dépasser la Méditerranée et m'ouvrir au monde. Donc ça réouvre dans un mois et ça s'appellera Super Blue, comme le soupe est bleu en fait, parce qu'on garde quand même nos origines méditerranéennes. Hein. Et les autres bagnards sont dans le deuxième, à Galerie Lafayette et à Boulogne.
Bon, alors tu as un petit peu comme Youssef, tu au départ tu as fait de la cuisine gastronomique française et puis tu as fait un espèce de retour aux sources parce que tu as eu d'abord un restaurant qui s'appelait Osmose. Bon, tu as fait Top Chef hein. Bon, on avait Denis d'ailleurs au téléphone tout à l'heure. Donc je crois que vous étiez de la même saison.
Non, il était juste avant moi mais
juste avant toi,
très,
d'accord.
Très très bon copain, ouais, très 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 bon ami, ouais, bien sûr.
Ah oui, et doit être très sympa, Denis. Et donc tu avais ton restaurant miniature aussi, hein, qui était un restaurant gastronomique, mais avec un esprit tapas. Donc là, que tu commences à te rapprocher de la Méditerranée. Et puis aujourd'hui, donc Bagnard. Alors tu vas nous expliquer le concept de Bagnard. Et puis il y a un petit nouveau qui s'appelle Zaza Street Food. Et tu vas nous dire aussi ce que c'est.
Tout à fait. Ben on va commencer par Bagnard. Bagnard, c'est une ode à la Méditerranée. C'est un art de vivre. Je voulais montrer l'art de vivre à la méditerranéenne parce que la table est très importante chez nous tous. Donc je voulais accueillir le client d'une manière différente et puis aussi travailler à 100% tous les produits de la Méditerranée. Donc moi aussi, je vais souvent en Tunisie récupérer ma harissa. Elle vient de là-bas d'ailleurs et elle la prépare pour nous. C'est la recette de ma grand-mère. Puis après, on va traverser tout le bassin de la Méditerranée. Donc aussi bien l'Espagne, l'Italie, le Liban, le sud de la France, parce que l'une de nos grandes spécialités, c'est le pan bagnard. Donc on a fait aussi le casse-croûte tunisien. Voilà, c'est des petits clins d'œil. Il va en baba ganoush, un lamené. Et Zaza, c'est l'autre côté de la Méditerranée. Donc vraiment, c'est un comptoir de pita levantine avec une touche de fraîcheur. J'ai voulu amener une version parisienne de la pita levantine.
Bon, est-ce que tu es allé tester le restaurant de Youssef Ghasly qui est en studio avec nous ?
Pas encore.
Ah, pas encore, mais je veux bien l'adresse, je vais aller tester avec plaisir.
Bon, je t'enverrai ça par SMS, hein, ça te rappellera la Tunisie, je suis sûr que tu vas adorer.
Ah ouais, mais moi aussi j'y vais souvent parce que ça nous manque à chaque fois
c'est clair.
C'est un accueil extraordinaire.
On parlait d'harissa d'ailleurs avec Youssef tout à l'heure, parce qu'il fait une harissa maison qui est délicieuse. Toi aussi, tu fais une harissa, c'est la recette d'une tante à toi, c'est ça ?
Non, de ma grand-mère. Ouais,
de ta grand-mère.
Donc on part de piment déshydraté, évidemment, qu'on réhydrate, on retire bien les grains. Et nous, on met juste de l'ail, du cumin et de l'huile d'olive. Voilà, c'est tout ce qu'on met. Et puis après, c'est la dose. Alors on a dû beaucoup recalculer parce qu'à la base, tout était calculé en cuillère ou en verre.
Ouais, ou en chouïa. En chouïa,
avec des rabats. C'est la magie des recettes de grand-mère.
Ok. Yoni, merci beaucoup. On va te laisser parce que tu es en plein service.
Merci,
on te remercie d'avoir pris le temps de nous appeler.
Et le bonjour à tous. Et j'attends l'adresse du restaurant. Je vais y aller.
Promis, je te l'envoie en SMS à la fin de l'émission.
Salut, Yoni.
Allez, super. Merci à vous tous. Et quand vous voulez, vous passez avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. De toute façon, sur Instagram, on mettra les adresses de tous tes restos.
Ah, bah, c'est cool. Ça me fait plaisir. Faites attention à vous tous. Merci.
Merci,
Yoni. Rappelez les adresses quand même, certaines, Manu.
Oui, alors, bon, il y en a beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est que à la fin de l'émission, enfin à 14h, vous pourrez gagner le livre de Denis Imbrosi, Une table au soleil. Sur un post Instagram, sur mon compte mariani.manuel. Et puis, vous aurez également le carnet d'adresses, comme chaque semaine désormais. Vous aurez les adresses de tous nos invités par téléphone ou de Youssef Ghasly. Sur mon Instagram, mariani.manuel. Ça, ce sera à 14h précise.
Vous avez cédé à la mode des brunchs ?
Non, pas du tout.
Non.
Non, parce que je ne supporte pas ça.
Ah, voilà, parce que le week-end, tout le monde veut savoir où on va bruncher. Donc, non, pas vous. Mais merci d'avoir été avec nous. On se retrouve samedi prochain. Vous réécouterez l'émission en podcast sur Beurre FM. Très bon week-end à tous.
Merci.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.